Alors effectivement, c'est pas la psychanalyse et les femmes, mais la psychanalyse et le féminisme et les problèmes que ça pose. Néanmoins, je commence quand même par. C'est un peu. Dès que je mets la main, ça. D'accord. Je commence quand même par la psychanalyse et les femmes, parce que sinon on n'y comprendra rien. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est une sorte de. Disons de tableau. D'accord.
Ça enregistre.
Voilà, super, merci. Une sorte de tableau, disons en deux parties, c'est-à-dire. Il y a encore des gens qui arrivent, peut-être.
On va attendre un petit peu. Encore des courageux qui ont deux matchs de foot. Oh là là.
C'est super. Ouais, absolument.
Vous êtes gentil, je donne le résultat à la fin de la séance. Un match nul. France, Suisse, match nul. Ça va mieux?
On a le droit, mais c'est difficile
moi,
en même temps.
L'information, et après chacun fait ce qu'il en veut.
Ça se conquiert ce droit, parce que. Donc effectivement, j'ai intitulé mon exposé de ce soir Psychanalyse et féminisme, enjeu d'une mésentente. Mais vous ne comprendrez la mésentente que dans un deuxième temps, parce que précisément pour la comprendre, il faut déjà voir un peu d'où tout ça s'organise. Depuis le début, donc, c'est-à-dire quelle est au fond la théorie sur, disons, des femmes, sur la féminité que propose la psychanalyse, à commencer par Freud, donc, évidemment. Cette question émerge assez tôt, la question de la féminité, dès 1897, c'est-à-dire au moment où Freud est encore en train de correspondre avec son grand ami Fliess, le médecin de Berlin, qui donc est son seul, en tout cas Freud se plaît à le dire, son seul interlocuteur valable à l'époque. Et donc, dans une de ses lettres, en 1897, il souligne la position particulière de la femme par rapport à l'avènement de sa sexualité, à savoir que donc, les stimulations, les premières stimulations sexuelles viennent du clitoris et qu'ensuite, il s'agit de savoir comment. On passe donc à la découverte du vagin et à ce qui s'ensuit dans le rapport de la femme à sa propre sexualité. Donc énigme posée très rapidement par Freud, voilà cette migration du clitoris au vagin avec quelque chose donc qui travaillera, c'est le cas de le dire, Freud toute sa vie. Comment se fait cette migration de l'extérieur vers l'intérieur? Intérieur, donc, qui restera toujours énigmatique à ses yeux, puisqu'il l'appellera donc le continent noir de la féminité. Donc cette question est posée comme ça, de façon très allusive, en 1897. Mais un des disciples de Freud, qui s'appelle Karl Abraham, va reprendre, le problème par un autre bout. En 1919, donc, Karl Abraham fait paraître un essai sur les manifestations du complexe de castration chez la femme. Alors, je vais m'expliquer sur ce qui est en jeu dans cette idée du complexe de castration. La reprise par Abraham de la question du complexe d'Œdipe qui a surgi pour Freud. En plusieurs étapes, avant l'interprétation des rêves, mais c'est-à-dire avant 1900, donc dès la correspondance avec Fliess, il y a une sorte de début de problématisation de ce que serait, donc comment s'organise la structuration psychique. Et ça n'est vraiment théorisé qu'en 1905, dans les trois essais sur la théorie de la sexualité. Et alors apparaît cette idée qui commence à se structurer bien du complexe d'Œdipe. Alors un petit rappel donc de ce qui est en jeu dans cette ce qui est devenu le pontozane de la psychanalyse, le complexe d'Œdipe. Donc oui, il fait chaud. Effectivement. Donc, en fait, Freud s'est lié cette théorisation du complexe d'Œdipe à ce qu'il appelle l'énergie psychique sexualisée, qui est donc la libido. Et il découvre, alors, et il dit ça dès 1905, que la libido est toujours phallique. Alors, énorme problème, vous commencez déjà peut-être à percevoir dans quelle mesure ça va donner lieu à des malentendus qui dureront longtemps, sur ce qui est en jeu donc dans cette question du phallique. Alors, pour un peu schématiser les choses, donc l'idée du complexe d'Œdipe, c'est que le complexe d'Œdipe étant, disons, la porte d'entrée dans la structuration psychique névrotique, c'est-à-dire normale aux yeux de Freud, par opposition à une structuration psychique psychotique qui ne passe pas par le complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe est la porte d'entrée dans la névrose, mais c'est aussi un point de structuration essentiel dans la mesure où ça oblige un sujet donné à faire un choix d'objet d'amour, un choix d'investissement libidinal. Ça oriente la façon dont le sujet va ensuite donc diriger sa vie amoureuse essentiellement. Alors, donc, on connaît bien l'idée que donc le petit garçon et la petite fille se trouvent confrontés à une situation qui est un rapport initial à la mère qui nourrit et qui prodigue les soins à la mère ou la figure maternelle ou maternante, qui prodigue les premiers soins. Et soins qui s'accompagnent donc d'une certaine érotisation du corps, ou en tout cas de sensations agréables ressenties dans le cadre du nourrissage et des soins. Ce qui fait problème à Freud, c'est bon, d'accord, ça on voit bien le premier lien d'amour qui s'étaye sur ces nécessités liées à la continuation de la vie du nourrisson. Mais il y a quand même un père dans le tableau, donc qu'est-ce qu'on fait du père? À partir du moment où petit garçon et la petite fille se rendent compte que, effectivement, la mère fait exister le père dans sa vie à elle, c'est-à-dire qu'elle lui donne une place dans son désir à elle, eh bien, évidemment, il va s'agir de savoir quoi faire du père dans sa singularité à lui, et notamment, qu'est-ce qu'il a qui fait que la mère donc se tourne vers lui et de temps en temps, en tout cas, n'est pas totalement disponible pour son enfant. Donc arrive la question du phallus à bien discerner du pénis, puisque ce que Freud refuse immédiatement, c'est la centration sur l'anatomie. C'est-à-dire que, alors il est très ambigu parce qu'il a des phrases où il dit en même temps l'anatomie c'est le destin, donc on est homme, on est femme, voilà, on est du verbe naître, hein, et du coup du verbe être aussi, et en même temps il n'arrête pas de dire mais finalement la question de l'identité sexuelle, c'est un mot trop moderne pour Freud, mais enfin, elle n'est pas liée uniquement à l'anatomie. Donc, elle est liée à autre chose, elle est liée à une construction, à une structuration psychique. Et donc, voilà, il va s'agir là de savoir comment se fait cette construction, puisqu'on ne peut pas se satisfaire uniquement de l'anatomie. Et donc, cette construction se fait dans ce contexte œdipien où donc la mère désire autre chose que l'enfant. Cette autre chose, c'est quoi ? A priori, en tout cas, Freud ne se pose pas la question que ça puisse être autre chose qu'un homme, le père. Et qu'est-ce qu'a le père que l'enfant n'a pas ? Alors, et qui fait que le désir de la mère se tourne vers le père ? Alors, qu'est-ce qu'il a, le père? Effectivement, en fonction du fait que c'est une petite fille ou un petit garçon qui regarde, il ne va pas avoir la même chose. Soit le père a un plus grand pénis que le petit garçon et du coup est pourvu de quelque chose de mieux que le petit garçon, soit donc, aux yeux de la fille, il est pourvu de quelque chose que la fille n'a pas du tout. Donc, alors, évidemment, il y a des zones d'ambiguïté et des zones d'ombre qui ne sont pas résolues par la psychanalyse, à savoir le recouvrement donc de l'organe pénis donc et de ce que Freud appelle phallus, qui au fond est autre chose que l'organe. Le phallus, c'est un élément symbolique qui circule, c'est-à-dire que c'est ce qui donc ce dont peut être pourvu, ce dont quand on en est pourvu, c'est ce qui rend désirable, au fond. Donc, la structuration, bon, Lacan va reprendre cette question en la sortant complètement de l'anatomie, plus radicalement encore que Freud l'avait fait, en disant le phallus, c'est le signifiant du désir, et c'est un signifiant qui circule. Et c'est pas le pénis. Le phallus, c'est simplement l'emblème, le symbole de ce qui rend désirable. Donc, je vais rentrer tout de suite dans les textes, dans notamment deux textes qui sont des réponses que Freud fait à l'idée de Karl Abraham. Donc, Karl Abraham, dont je vous parlais là de l'essai sur les manifestations du complexe de castration chez la femme. Donc, ce complexe de castration, au fond, pour Karl Abraham, c'est cette découverte horrifiante pour la petite fille, qu'elle n'est donc pas pourvue de ce que la mère désire. Hein. Ce qui va orienter le complexe d'Œdipe de façon très différente pour le garçon et pour la fille. Ça aussi, je vais rentrer dans le détail. Donc, voilà, donc seuls les analystes hommes à cette période, c'est-à-dire avant les années 20, s'intéressent à la question de la sexualité féminine, Abraham, donc Freud. C'est drôle d'ailleurs de voir que ça les pousse quand même à s'intéresser à la question du féminisme, hein, c'est-à-dire des revendications qui existent déjà à l'époque, bien sûr, des femmes visant une égalité sexuelle, des droits civils, et autres, hein, donc qui était totalement inexistante à l'époque. Mais Karl Abraham, donc ils ont des positions de psychanalystes par rapport à ces revendications d'égalité. Donc, par exemple, Karl Abraham considère que le désir d'égalité sexuelle est une manifestation du complexe de castration chez les femmes, c'est-à-dire parce qu'elles sont castrées, elles, c'est-à-dire dépourvues. Alors, pour le coup, du pénis, justement, de l'organe même, eh bien, ça les pousse, évidemment, à revendiquer une égalité dont elles se sont rendues compte qu'elles n'y ont pas accès, ou en tout cas, aux yeux de Karl Abraham, elles se sentent dans une position inégalitaire, moyennant quoi, par des biais politiques, culturels, elles sont amenées à revendiquer cette égalité. Donc, Abraham considère même que le mouvement des femmes qui nie la différence sexuelle est un effet du complexe lui-même, dans la mesure où c'est une manière de nier la castration et de revenir à ce que Abraham appelle la masculinité originelle. Donc, voilà, dénier qu'on est castré, au fond, c'est ça l'idée, et prendre une position sociale et culturelle telle qu'on se trouverait, comme ça, imaginairement, quand même, sur un pôle masculin. Donc, le complexe de castration, dans ces cas-là, est à relier complètement avec ce que Freud appelle le penis night, c'est-à-dire l'envie du pénis, où on retrouve à nouveau cette ambiguïté entre donc l'organe lui-même, le pénis, et la position phallique, à savoir donc une position qu'on revendique disons, désirable. Hein. C'est ça que ça veut dire à ce moment-là, c'est-à-dire de ne pas être dépourvu de l'objet du désir pour l'autre. Donc, la nuance que Abraham introduit, c'est que lui, il ne pense pas que l'envie du pénis soit réservée à la femme. Finalement, comme de toute façon, et c'est ce qu'on va voir, garçons et filles sont soumis à la castration de manière différente, mais tout le monde y est soumis. Finalement, le pénis, donc l'envie du pénis, c'est un passage obligatoire pour tout le monde. Donc voilà, 1919, hein, c'est la date de naissance, si on peut dire, d'un début de nouage entre les problèmes que posent à la psychanalyse les cures de femmes, hein, et ce que les femmes disent dans ces cures, et ce qu'elles y revendiquent, là comme ailleurs. Et donc les questions du féminisme, disons, qui existent depuis au moins la fin du 19e siècle. Et donc, à partir de là, des femmes vont s'emparer de ces questions, notamment une femme qui s'appelle Karen Horney, qui, en 24, écrit un article qui s'appelle « De la jeunesse, du complexe de castration chez les femmes », où elle répond à Abraham, et donc où elle soutient que c'est au chauvinisme mâle, M-A-L-E, que l'on doit l'idée que les femmes considèrent leurs organes génitaux comme inférieurs. Et donc, pour Karen Horney, l'envie du pénis ce concept-là qui existe chez Freud, qui est repris chez Karl Abraham, est complètement stigmatisante pour les femmes. C'est une sorte de point de vue moral, hein, qui implique une infériorité féminine et qui va donc ouvrir des débats entre la psychanalyse, les analystes femmes et les féministes qui vont avoir une grande postérité, on va le voir tout de suite. Mais avant ça, il faut s'arrêter à deux textes de Freud, deux textes importants sur ces questions-là. Un texte de 1925 qui s'appelle « Quelques conséquences psychologiques de la différence anatomique entre les sexes ». Et d'autre part, un autre, c'est dans la vie sexuelle, et un autre article, le 31, qui s'appelle donc « Sur la sexualité féminine ». Alors, dans l'article de 1925, voilà, Freud refait une sorte d'historique de la façon dont il a été amené à s'intéresser à la sexualité féminine. Et alors, ce qui est bien avec Freud, c'est qu'il est très honnête dans sa façon de procéder et donc des énormités, dont lui-même d'ailleurs est conscient. Le défilé, il en arrive, pris pour objet l'enfant de sexe masculin, le petit garçon. Au moins, c'est que le modèle ou la référence. Nous pensions qu'il doit en aller de même pour les petites filles, c'est-à-dire qu'en comprenant la vie sexuelle des garçons, on comprenait celle des filles, quoique d'une certaine manière, il devait en aller différemment. On ne pouvait alors clairement constater où se révèle cette différence au cours du développement. Donc tout l'article, là, vise à montrer où se situe la différence, hein, par où surgit donc la question de la différence sexuelle, et ce qui fait que la vie sexuelle de la petite fille ne va pas être le décalque strict, hein, de celle du petit garçon. Le complexe d'Œdipe de la petite fille recèle un problème de plus que celui du garçon. Au début, la mère était, pour l'un comme pour l'autre, le premier objet, et nous n'avons pas à nous étonner du fait que le garçon la conserve pour son complexe d'Œdipe. Mais qu'est-ce qui amène la petite fille à y renoncer ? C'est-à-dire, le petit garçon la conserve pour son complexe d'Œdipe, c'est-à-dire qu'il sortira du complexe d'Œdipe avec un objet d'amour identique. Mais qu'est-ce qui amène la petite fille à y renoncer et apprendre ? J'ai pu établir quelques faits qui peuvent justement jeter une lumière sur la préhistoire de la relation œdipienne chez la petite fille. Alors là, il y va, je choisis les passages, hein, mais donc je saute des bouts, pour ne prendre que ce qui nous intéresse là. Il y va vraiment avec la truelle. Voilà que la petite fille, selon lui, remarque le grand pénis bien visible d'un frère ou d'un camarade de jeu, le reconnaît tout de suite comme la réplique supérieure de son propre petit organe caché, et dès lors, elle est victime de l'envie du pénis. C'est... Voilà, alors évidemment, vous imaginez les critiques qui n'ont pas manqué de venir de tous les côtés. Lucie Rigaray, dont je reparlerai tout à l'heure, dans les années 70, mais plus récemment aussi, une femme qui s'appelle Séverine Offray, qui fait un séminaire très intéressant sur les idées féministes à l'Université populaire de Caen. Et donc, effectivement, elle dit, attends, c'est quoi cette histoire ? Et s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de garçon autour, qui dit que effectivement il y a un pénis à regarder autour. Je pense que ces gens qui sortent tous se poser quelques questions sur ce dont je parle.
Ça s'arrête même pas.
Ça n'arrête même pas, c'est triste en même temps, ça pourrait les interpeller un peu. Bon, donc voilà, donc effectivement, c'est des observations, ou plutôt des conjectures d'observations extrêmement massives de Freud, qui ont fait hurler à peu près tout le monde, et on comprend bien pourquoi. Mais donc, il est parti sur sa voie, et donc il y va. Et donc, elle remarque donc qu'elle est dépourvue de ce grand pénis qui est l'apanage du frère, du camarade de jeu, ou qui sait encore. Et donc, conclusion de Freud, de cette constatation de l'absence, donc, naîtront deux réactions qui peuvent se fixer et détermineront alors, soit séparément, soit ensemble, soit encore en liaison à d'autres facteurs, son comportement... Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est cette constatation de l'absence du pénis des femmes, c'est une constatation que aussi bien le garçon que la fille font. Hein. À un certain moment donné, le garçon donc, qui a supposé que tout le monde l'avait, comme lui, doit bien constater que notamment sa mère en est dépourvue. Et donc, ça engage le garçon sur une pente que vous allez reconnaître tout de suite, qu'on peut vraiment dire machiste d'emblée. Donc, le garçon, voilà, pourvu de cette constatation de l'absence de pénis chez les femmes, voilà, se trouve là sur une pente qui est l'horreur, dit Freud, de ces créatures mutilées. Donc, ou bien, si c'est pas l'horreur, c'est le mépris triomphant à leur égard. Moi, je l'ai, toi, tu l'as pas. Bon. Évidemment, pour la petite fille, elle se trouve dans une position différente, puisque ni triomphe, ni mépris, elle est aux prises avec cette absence. Et donc, Freud dit, il en va autrement pour la petite fille. D'emblée, elle a jugé et décidé, elle a vu cela, sait qu'elle ne l'a pas et veut l'avoir. Voilà, c'est l'affaire réglée. Donc, si elle ne l'a pas, elle ne peut que le vouloir. Hein. D'où, évidemment, ce que Freud va appeler complexe de castration, hein, qu'il reprend à Karl Abraham, parce que cette idée de la castration, elle lui était venue avant, mais il ne l'appelle pas lui-même complexe de castration. C'est vraiment une réponse là à Karl Abraham, puisque cet article date de 25 et que celui d'Abraham date de 19. Et alors, donc voilà comment naît ce complexe de castration. Un sentiment d'infériorité s'installe, dit Freud, tout comme une cicatrice chez la femme qui reconnaît sa blessure narcissique. Lorsqu'elle a surmonté sa première tentative d'expliquer son manque de pénis par une punition personnelle et qu'elle a compris la généralité de ce caractère sexuel, elle commence à partager le mépris de l'homme devant un sexe raccourci d'une façon si importante et dans ce jugement du moins, elle maintient sa parité avec l'homme. Donc, effectivement, s'il y a une égalité possible, c'est uniquement dans la posture phallique hein, que la femme peut prendre en déniant, au fond, sa propre castration réelle. Alors là, Freud, qui quelquefois s'emporte, non sans ironie, remarque donc que des psychanalystes, dit-on, se piquent de n'avoir rien perçu après des efforts de dizaines d'années de l'existence d'un complexe de castration. On doit s'incliner avec admiration devant l'importance de cette performance, même si ce n'est qu'une performance négative, un tour de force dans l'aveuglement et la méconnaissance. Autant dire que lui-même n'a vraiment aucun doute sur la réalité psychique hein, de ce complexe de castration. Donc voilà la petite fille dans cette perspective-là révoltée, hein, absolument révoltée de ce qu'elle n'a pas et qui lui manque et qu'elle ne peut que revendiquer pour, disons, maintenir un semblant d'égalité avec le garçon. Je ne peux m'expliquer cette révolte de la petite fille contre donc la puissance phallique que par l'hypothèse suivante. Elle est vivement dégoûtée donc de ce qu'elle a sous les yeux. Ce facteur... Donc, il parle aussi, oui, de l'onanisme, donc de la masturbation du petit garçon qui existe chez la petite fille, donc aussi, mais évidemment, l'idée donc de l'onanisme du petit garçon étant particulièrement révoltante pour la petite fille, puisque elle n'a pas la possibilité, disons, d'avoir accès de la même manière à son sexe, qui est intérieure pour Freud, sauf cette petite partie extérieure qu'il appelle un petit pénis, donc le clitoris. Mais évidemment, le sien étant petit, est beaucoup plus petit, voilà, et ça peut jouer que d'une manière, aux dépens de sa propre image d'elle-même, moyennant quoi elle se trouve là tout à fait dégoûtée de l'accès à l'onanisme différent que le petit garçon a. Donc, notamment, alors lui rattache la reconnaissance d'une différence anatomique entre les sexes à cette différence d'accès aux organes génitaux. Et ce qui fait que la question du complexe d'Œdipe, là, est complètement rattachée dans ce cadre-là, dans le cadre de la reconnaissance de la différence anatomique des sexes, est complètement rattachée au complexe de castration. Le complexe d'Œdipe du garçon sombre, dit-il, sous l'effet du complexe de castration, c'est-à-dire quand il se reconnaît ou quand il dans la lutte avec le père pour l'accession à la mère, quand le petit garçon reconnaît que c'est pas lui qui l'aura parce qu'elle est déjà possédée par le père, qui lui d'ailleurs a un plus grand pénis, et bien donc c'est ça le complexe de castration dans le cadre pour le petit garçon, dans le cadre du complexe d'Œdipe masculin. Et donc, cette reconnaissance-là, à savoir qu'il ne possédera pas la mère, eh bien, marque l'acmé pour Freud du complexe d'Œdipe et sa dissolution. Une fois que le petit garçon a accepté ça, bon, ça va, il sait que son objet d'amour sera quand même identique à la mère, mais pas celle-là, une autre. Hein. Et donc, le voilà à peu près sorti d'affaire de ses eaux troubles du complexe d'Œdipe. Par contre, et c'est là que ça devient vraiment compliqué pour la fille, le complexe d'Œdipe de la fille est rendu possible et est introduit par le complexe de castration. Au fond, ça veut dire que le garçon finit là où la fille commence. Hein, la fille se trouve confrontée à la difficulté d'avoir à changer d'objet d'amour. Hein, le garçon renonce à la mère, mais choisira un objet d'amour sur le modèle de la mère, alors que la fille, elle doit renoncer à la mère comme objet d'amour et passer à un objet d'amour semblable au père. Pas le père lui-même, mais un pareil. Donc, pour résumer les choses, on peut dire que ça commence pour la fille au moment où ça finit pour le garçon. C'est donc beaucoup plus compliqué pour la fille, dit Freud. D'où le mystère, les circonvolutions, disons, de la sexualité féminine, hein, dont la construction est beaucoup plus sinueuse que celle du garçon. Lui, il reste sur sa ligne, point, alors que la fille, elle doit biaiser pour essayer de voir un peu comment elle peut s'en tirer. Je lis la fin de l'article où apparaissent la question des arguments des féministes, justement. Donc, le motif de la destruction du complexe d'Œdipe chez la fille fait défaut, c'est-à-dire comment elle sort du complexe d'Œdipe. On voit bien comment le garçon en sort, mais la fille, hein, on voit tous les détours qu'elle a dû faire, mais qu'est-ce qu'il peut faire au fond qu'elle accepte? Ça veut dire ça, qu'elle accepte la castration, hein, de ne pas l'avoir du tout, c'est-à-dire pas un plus petit que le père, hein, mais pas du tout. La castration, dit Freud, a déjà produit son effet qui a consisté à la contraindre à la situation œdipienne. Le complexe d'Œdipe échappe donc au destin qui l'attend chez le garçon. Il peut être abandonné lentement, être liquidé chez la femme, hein, être liquidé par le refoulement. Ces effets peuvent être longuement différés dans la vie mentale normale de la femme. Alors, on hésite à le dire, dit Freud, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi il hésite à le dire, mais on ne peut se défendre de l'idée que le niveau de ce qui est moralement normal chez la femme est autre. C'est-à-dire que la femme n'est effectivement pas un être moral comme l'homme. Son surmoi ne sera jamais si inexorable, si impersonnel, c'est-à-dire sa loi interne, hein, ce qui la fait agir bien. Son surmoi ne sera jamais si inexorable, si impersonnel, si indépendant de ses origines affectives que ce que nous exigeons de l'homme. Ces traits de caractère que l'on a de tout temps critiqués et reprochés à la femme, le fait qu'elle fait preuve d'un moindre sentiment de la justice que l'homme, d'un penchant moindre à se soumettre aux grandes nécessités de l'existence, qu'elle se laisse plus souvent que lui guider dans ses décisions par ses sentiments de tendresse et docilité, la modification de la formation du surmoi dont nous venons de montrer d'où elle dérive, en est une raison suffisante. Que la femme soit à peu près un être inférieur à l'homme, hein, c'est quand même pas loin de ce qu'il dit là. Donc, on le comprend par la différence de construction de son complexe d'Œdipe. Évidemment, c'est beaucoup plus sinueux. Et puis, la femme est un être assez sinueux, finalement, dans l'avènement de sa sexualité. On ne comprend pas bien comment ça se passe. Hein, c'est à peu près ce que dit Freud. Nous ne nous laisserons pas détourner de telles conclusions par les arguments des féministes qui veulent nous imposer une parfaite égalité de position et d'appréciation des deux sexes. Alors ça, pour lui, c'est clair qu'il n'y a aucune égalité, il y a une différence hein, entre les sexes, mais pas d'égalité possible. Alors, bon, comme il n'est pas totalement inconscient du caractère absolument conservateur et voire réactionnaire de son propos, pour mettre un peu de l'eau dans son vin, il ne remonte pas la femme, mais il descend l'homme. Alors, mais nous accorderons volontiers que la plupart des hommes demeurent bien en deçà de l'idéal masculin. Voilà, comme ça, effectivement, ça rétablit un peu le truc, mais pas au profit des femmes, en tout cas, plutôt, disons, en défaut pour les hommes, mais voilà. Donc, voilà cet article de la différence anatomique des sexes, donc, des conséquences psychologiques de la différence anatomique entre les sexes, qui repose donc sur la différence de rapport à la castration. Et du coup, sur la différence, effectivement, de gestion, on pourrait dire, d'organisation du complexe d'Œdipe. Alors, évidemment, quelles sont les possibilités de devenir pour les femmes du complexe d'Œdipe ? Il ne le disait pas dans cet article, hein, il laisse les choses en suspens, mais il va donc développer ça dans l'article de 31 sur la sexualité féminine. Alors, article dans lequel il fait allégeance aux choses nouvelles qui sont venues des femmes, des femmes psychanalystes. C'est Mélanie Klein, Hélène Deutsch, Jeanne Lampel de Groot, je ne sais jamais comment on dit ce nom, donc c'est une Hollandaise, et quelques autres, donc qui ont imaginé qu'on pouvait peut-être essayer de prendre les choses autrement pour pas, complètement ostraciser la question de la construction de la féminité et de la rabattre hein, sur un pôle d'infériorité inexorable, disons. Elles ont imaginé qu'on pouvait peut-être remonter avant le complexe d'Œdipe et qu'évidemment, si on prend les choses à ce stade-là, c'est pas très bon pour les femmes, mais si on les prend sur le pôle pré-œdipien, c'est-à-dire dans le moment où le rapport à la mère et la relation d'objet, liée à ce couple, hein, mère-enfant, on pouvait peut-être s'en sortir mieux pour les femmes. Et bon, donc, dans cet article, Freud repasse par le défilé de toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe avant l'Œdipe ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le rapport de la mère à la fille ? Bon, mais il ne le fait que pour, au fond, le laisser mieux de côté. C'est-à-dire pouvoir dire « je n'ignore pas ce point, mais je m'en tiens quand même » à la question du complexe d'Œdipe lui-même, qui reste déterminant de toute façon pour le devenir hein, de l'identité sexuelle d'un sujet. Donc, donc il n'en démord pas, par exemple, sur le taux de mépris certain, dit-il, envers la femme, reconnue comme châtrée, hein, ça ne change rien pour lui à ce problème qu'il a posé en 25. Et donc, ce qui l'intéresse, lui, une fois qu'il a dit « d'accord, toutes les autres sont en train de travailler sur ce qui se passe avant l'Œdipe, mais moi j'en reste là », ce qui l'intéresse, c'est de voir ce qui va se passer pour les femmes. Quels sont les devenirs hein, du complexe d'Œdipe féminin. Et donc, il voit trois orientations du développement, donc, qui découlent des effets du complexe de castration chez la femme, hein, qui est au cœur du complexe d'Œdipe. La femme reconnaît le fait de sa castration et avec cela, elle reconnaît aussi la supériorité de l'homme et sa propre infériorité, mais elle se révolte donc contre cet état de choses désagréable. Il en était là, hein, à la question de la révolte, dans l'article précédent. Avec cette révolte, donc, s'ouvrent trois possibilités. La première conduit à se détourner d'une façon générale de la sexualité. Abandon de la sexualité, c'est un terrain où je ne peux pas gagner, donc j'y vais pas. Deuxième possibilité, Donc, elle n'en démord pas, c'est-à-dire elle maintient sa révolte et avec une assurance insolente, dit Freud, elle affirme donc sa masculinité menacée. Voilà, donc c'est ce qu'il va appeler la femme phallique, donc celle qui maintient une position phallique même castrée, donc même dépossédée du pénis, elle peut quand même psychiquement maintenir cette position. Et enfin, donc, la troisième direction possible, la troisième voie du devenir du complexe d'Œdipe, qui est très sinueuse, dit-il, qui débouche dans l'attitude féminine normale finale, qui choisit le père comme objet et trouve ainsi la forme féminine du complexe d'Œdipe. Donc, sur ces trois possibilités, à ses yeux, seule la troisième produit une femme normale, c'est-à-dire celle qui va avoir une vie normée, avec famille, mari et enfant, alors que donc les deux autres ne sont pas normales, mais sont au moins aussi possibles que la troisième. Autant dire que la femme normale, on ne va pas la trouver très souvent. Voilà. Alors, petite note en bas de page qui me semble intéressante, on peut prévoir, dit Freud, que les hommes féministes, bon, il y en aura de moins en moins, et aussi les analystes femmes ne seront pas d'accord avec cet exposé. Ils ne se retiendront guère d'objecter que de telles théories ont pour origine le complexe de masculinité de l'homme et doivent servir à donner une justification théorique à la tendance innée de l'homme à mépriser et à réprimer la femme. Seulement, une telle argumentation psychanalytique rappelle, dans ce cas comme si fréquemment, la célèbre arme à deux tranchants de Dostoïevski. Les opposants, de leur côté, trouveront compréhensible que le sexe féminin ne veuille pas accepter ce qui semble contredire une égalité ardemment convoitée avec l'homme. L'utilisation de l'analyse comme arme de controverse ne peut mener clairement à une décision. Au fond, c'est assez compliqué, ce que Freud indique là, c'est que, évidemment, que ceux qui prendront une position féministe, c'est-à-dire qui n'en démordront pas de la question de l'égalité entre les sexes, argumenteront dans le sens que là, on ne situe la femme que par rapport à l'homme. Et que, au fond, ce serait par rapport à cette masculinité qui serait déniée à la femme que, effectivement, les femmes auraient à se situer. Mais en même temps, dire ça, c'est reconnaître, et c'est pour ça que c'est une arme à double tranchant, c'est reconnaître aussi qu'il n'y a pas d'égalité, a priori, entre les sexes. On dit à la fois, on ne pense la femme qu'en fonction de l'homme, mais on dit en même temps, un contre-argument, que, effectivement, si on la pense comme ça, c'est bien qu'il n'y a pas d'égalité, a priori. Donc, ce que Freud, il bat en retraite en disant de toute façon la psychanalyse ne peut pas départager ces questions-là, c'est pas une arme de débat, et donc le chapitre est clos pour le rapport entre Freud et le féminisme. Alors par contre il s'ouvre et là ça commence à devenir compliqué pour tous les autres. Alors dans un premier temps, étant donné ces positions freudiennes là, on comprendra facilement que dans le féminisme, la vague importante de féminisme qui commence après la Seconde Guerre mondiale en Europe et aux États-Unis, Freud c'est l'homme à abattre, parce que il ne pense donc la femme que par rapport à l'homme, que il a des phrases définitives sur la nature de la libido phallique, c'est-à-dire que le complexe d'Œdipe, comme point de structuration, point de passage obligatoire pour les hommes et les femmes, constitue le désir de la femme comme forcément par rapport au phallus. Toute proposition là qui seront irrecevables pour toutes celles qui, vont commencer à s'intéresser au statut, à tous égards, social, culturel, juridique des femmes. Donc, il faut là faire un petit point pour comprendre ce que j'ai appelé donc cette espèce de mésentente fondamentale entre la psychanalyse et le féminisme, parce que ce qui est en jeu là et que vous voyez, c'est que le complexe d'Œdipe est porté par Freud à un universel. C'est une loi incontournable de la structuration psychique, hommes et femmes confondus certes, n'agissant pas de la même manière pour les hommes et pour les femmes, mais c'est un universel, au sens où c'est une loi, voilà, ils la cherchent partout. Alors vous connaissez peut-être les débats en anthropologie à partir de son ouvrage Totem et Tabou, hein, où il a essayé de construire une préhistoire du complexe d'Oedipe en inventant un mythe, hein, littéralement, de la horde primitive, le meurtre du père, etc. Tous les anthropologues lui sont sautés dessus, Malinowski est le premier pour réfuter entièrement cette espèce de mythe. Hein. C'est un mythe pour la psychanalyse, mais ça n'a aucune valeur anthropologique. Bon, un certain nombre de gens vont là. Suivre ces contestations, hein, de l'universel du complexe d'Oedipe apporté par la psychanalyse comme une loi incontournable de la structuration psychique. Alors, pour situer bien les débats, il faut, voir justement les deux grands courants du féminisme qui émergent, après la Seconde Guerre mondiale, Simone de Beauvoir étant évidemment... la figure, incontournable, hein, de ce nouveau féminisme. Donc, pour structurer un peu les choses et que vous puissiez vous y repérer, il y a deux féminismes, avec tous les mouvements, toute la cartographie précise qu'on peut faire, mais qui s'organisent donc en deux axes, hein, soit un féminisme universaliste, et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, soit un féminisme différentialiste. Alors, mon propos, c'est pas de parler du féminisme en tant que tel, mais on comprendrait pas les débats entre féminisme et psychanalyse si on pouvait pas situer bien les choses, en se rappelant donc que la psychanalyse prétend à un universalisme. Hein. Donc, a priori, on pourrait se dire, le féminisme universaliste va être plus proche de la psychanalyse. Eh bien, pas du tout, c'est même largement le contraire. Alors donc, le féminisme universaliste, c'est celui donc qui considère donc que, le féminisme, c'est l'affirmation simple, il y a des femmes, et que cette affirmation vaut universellement. C'est-à-dire qu'il existe donc une unité. Hein, quelque chose de l'ordre d'une essence, hein, d'ailleurs, il existe quelque chose comme la femme. Hein. À partir de quoi on peut penser la réalité autrement que si on la pense à partir de ce qui s'appelle l'homme, au sens masculin. Hein. Donc, il y a une unité, hein, y a une uniformisation, un groupe, hein, qui permet donc de situer la femme comme une valeur universelle. Hein. Alors, en même temps, donc, de ce côté-là, c'est pas sans difficulté parce que, par exemple, le fameux livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, suppose quand même que le féminin vient en deuxième. Hein. Donc, il y a quelque chose comme une unité du féminin, il y a la femme, hein, mais elle est quand même située par rapport à un autre un. Hein, à savoir le masculin, l'homme. À partir de quoi, évidemment, l'universalité dont il s'agit coupe quand même, reconnaît, une certaine forme de la différence, mais, va donner... Forcément, il y a de la différence, puisque s'il y a du deuxième, il y a du premier, qui n'est pas le deuxième. Donc, on est là coincé dans une série de problèmes assez difficiles à résoudre, et que, d'ailleurs, Simone de Beauvoir ne résout pas, si ce n'est effectivement... en attaquant la psychanalyse pour, alors, bille en tête, hein, donc le freudisme est pour elle un ennemi caractérisé du féminin, puisque, au fond, c'est le freudisme met l'accent donc sur la mutilation castratrice, hein, à laquelle est soumise la femme, et ne pense la femme qu'à partir de là. Hein, donc, elle ne la pense pas comme un, elle la pense comme moins un, on pourrait dire. Hein, elle ne pense que le manque, hein, la femme à partir du manque. Donc c'est évidemment, ça pose un problème réel par rapport à la catégorie du 1, c'est-à-dire de la femme comme, une catégorie essentialisée, c'est-à-dire, avec sa propre logique, sa propre, identité. Alors, mais comme c'est un peu compliqué, puisque malgré tout, Simone de Beauvoir maintient le 1 et le 2, hein, on va voir là émerger à partir de là un courant assez intéressant qui est notamment représenté par Elisabeth Badinter, qui carrément, elle, y va directement en nommant un livre qu'elle écrit donc en 86, « L'un est l'autre ». EST, hein, moyennant quoi s'abolit toute différence, hein, et on s'élève là à un universel non paradoxal, hein, c'est-à-dire il n'y a pas du 1-1-1 et un autre 1, deux universaux hein, concurrents, il n'y a que de l'un, hein, mais sans différence. Hein, sans plus aucune différence. Et d'ailleurs, donc, Elisabeth Badinter, dans ce même livre, en déduit de ce l'un et l'autre, hein, l'avènement de l'androgyne, qui lui paraît la chose la plus souhaitable, et prône donc une sorte de désexualisation. Et on voit apparaître dans ce courant-là, donc, c'est-à-dire la contestation de la différence sexuelle par le biais de l'universel, on voit apparaître des théories féministes très radicales, notamment je pense à une américaine qui s'appelle Donna Haraway, qui écrit dans les années 80, à peu près la même date qu'Elisabeth Badinter, un livre qui s'appelle Cyborg Manifesto, où elle appelle au dépassement de toutes les différences. La différence entre la vie et la mort, la différence entre les hommes et les femmes, etc. Donc, par donc, la construction d'êtres hybrides que seraient les cyborgs. Donc, cyborg, c'est-à-dire cyber organism, donc organisme, pas génétiquement modifié, mais techniquement modifié, hein, pour qu'il n'y ait plus du tout de sexe différent, qu'il n'y ait même plus de mort, hein, et qu'il n'y ait plus du tout d'autre. Hein, d'altérité sous aucune forme connue, disons. Dans la même école, on voit aussi plus récemment Marcela Yacoub prôner donc des choses assez radicales mais différentes, par exemple le refus de la maternité par voie de conception extra-utérine, c'est-à-dire des utérus technique, disons, qui porterait les enfants hors des ventres et qui permettrait donc de, effectivement, de dépasser totalement cette différence anatomique, hein, en la contestant par le biais, en utilisant la technique, hein, au profit de ce dépassement-là. Donc, elle parle d'indifférenciation. Et dans un ouvrage récent qui s'appelle « L'anti-manuel d'éducation sexuelle » qu'elle signe avec Patrice Maniglier. Donc, voilà, il propose une fiction qui est une ville qui s'appelle « Post-Sexopolis », pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc. « Du point de vue de l'état civil et des droits de chacun, il n'y a plus deux des huit sexes à Post-Sexopolis. On a mis fin aux distinctions qui existent encore, donc, entre les hommes et les femmes. » Et même chose que chez Elisabeth Badinter, ça tend vers une désexualisation, c'est-à-dire que, comme tout est sexuel, pour eux, le contact froid d'un fauteuil de cuir, mais aussi bien le fétichisme des talons aiguilles, la boulimie, l'anorexie et même le suicide, eh bien, effectivement, si tout est sexuel, rien n'est sexuel. Hein. Et après tout, effectivement... on n'a plus besoin du tout d'en passer par le rapport sexuel à proprement parler. Il faut trouver des modes de sexualisation qui ne passent plus par le sexe. Hein. Donc c'est au sens, disons, traditionnel où on entend sexualité, on est effectivement dans un post-sexopolis. Voilà, finalement, leur mot d'ordre, ce serait plutôt sexe zéro. Hein. Voilà, donc ça c'est une voie qu'a, emprunté le féminisme universaliste un peu coincé dans ses propres contradictions, hein, comment ça peut être un universel alors que effectivement se maintient la catégorie de femme, hein, on voit se développer en contestation de ce féminisme universaliste, une autre forme de féminisme qui s'appelle le féminisme donc différentialiste, c'est-à-dire ces femmes qui reconnaissent la différence, enfin ces féministes pardon, qui reconnaissent la différence sexuelle. Alors, Il y en a beaucoup et disons, j'irais volontiers, enfin, je vous c'est un parcours hein, que je vous propose, parce que c'est un mouvement extrêmement compliqué et florissant. Je choisis ma voie là-dedans pour essayer de voir quel problème ça pose à la psychanalyse. Et donc, la voie que je choisirais dans ce féminisme différentialiste, c'est celle qui va, disons, de Antoinette Fouque et de Lucy Rigaray à Judith Butler. Antoinette Fouque, vous savez, peut-être, donc, participe en 68 à la création du MLF, et puis surtout, donc, participe au début des années 70 à la création d'une section particulière du MLF, donc une section marxiste, qui s'appelle Psychépo, Psychanalyse et Politique. Et donc, qui se propose un partenariat critique, mais un partenariat quand même avec la psychanalyse, puisque donc, les femmes de ce groupe considèrent que la psychanalyse nous fournit les concepts qui permettent de saisir le fonctionnement de l'idéologie, donc patriarcale, et donc, elle propose une analyse, la psychanalyse propose une analyse de la place et de la signification de la sexualité, moyennant quoi c'est un outil. Qu'on peut utiliser pour, disons, au moins produire une réflexion sur la position des femmes, à partir de quoi une contestation devrait être possible. Donc, psychanalyse et politique, hein, c'est l'idée de, disons, faire servir la psychanalyse à des buts politiques. Hein. Si on comprend mieux comment fonctionne donc la psychanalyse, la femme, grâce à la psychanalyse, comment elle se construit, comment elle se, quels sont ses devenirs possibles, on saura mieux par quel bout, disons, attaquer le problème politique. Donc, ça, c'est le mouvement de Psychépo. Auquel va se rattacher, mais d'une façon un peu particulière, Lucy Rigaray, qui est une figure très importante. Cette femme donc, est née en 1932 et elle propose, une critique féministe du dedans de la psychanalyse. Hein. Elle est formée à la psychanalyse, elle est linguiste et psychanalyste, très proche de Lacan d'ailleurs. Et elle fait paraître en 1974 un livre très important qui s'appelle « Spéculum de l'autre femme », qui est un pavé dans la mare et qui va produire un effet inouï. Elle se fait virer de l'université pour ce livre. Elle enseigne à Paris 8. Du jour au lendemain, elle est destituée de son poste. Elle est en partenariat avec le CNRS et le CNRS lui intime l'ordre de ne pas se servir de ce livre comme référence dans ses travaux universitaires. Enfin, c'est d'une violence hallucinante. Et donc, elle se retrouve dehors, à la rue. Elle va même vivre de la solidarité des autres femmes, des groupes auxquels elle participe pendant quelques temps, avant d'émigrer aux États-Unis. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là dans ce livre qui produit, c'est une bombe apparemment, hein. Elle amène quatre propositions critiques sur la psychanalyse. Il faut quand même savoir que c'est l'époque à Paris 8 où Lacan dirige le département de psychanalyse. Et où donc il est absolument opposé à ces thèses et thèses qui sont, alors il y en a quatre, hein. La psychanalyse n'a pas conscience des déterminants historiques et sociaux de son propre discours. Ça veut dire que la psychanalyse n'est pas capable de s'autocritiquer et de voir quels sont ses propres biais idéologiques. Hein. C'est vrai que quand on lit, comme je viens de le faire, des extraits des articles de Freud, on ne peut pas, être en désaccord avec elle. Deuxièmement, la psychanalyse est elle-même gouvernée par des fantasmes inconscients qu'elle n'analyse pas. Troisièmement, elle est patriarcale, elle reflète un ordre social qui ne rend pas justice à ce qu'il doit aux femmes. Et alors, la cerise sur le gâteau, pour la psychanalyse, donc qui est traversée par des biais phallocentriques, considère néanmoins ces vérités comme universelles. Bon, évidemment, on comprend que tout le monde ait fait ce qu'il pouvait pour éviter d'avoir à entendre ce que Irigaray amenait. Bon, elle l'a payé cher. Il faut dire aussi que, je ne sais pas si vous avez déjà lu ces textes, c'est hyper difficile à lire. Elle a un style très particulier, très poétique, mais c'est très alambiqué. Donc, bon, en plus de jeter ses pavés dans la mare, elle n'a pas du tout un style universitaire. Donc, effectivement, elle a fait tout ce qu'il ne fallait pas, disons, par rapport aux critères universitaires. Et donc, elle, ce qu'elle amène comme idée extrêmement importante, c'est que justement, il n'y a pas d'essence. Je peux répéter si vous voulez, mais entre nous.
Comment on écrivait son nom?
Irigaray, alors Irigaray.
C'est basque?
Oui, un beau nom basque, oui, absolument. Et donc, en plus, bon, en 74, elle est quand même née en 32, elle n'est pas toute jeune, hein, c'est quand même ça a marqué un tournant très important dans sa vie. Et donc, l'idée essentielle qu'elle amène, là, c'est qu'il n'y a pas d'essence du féminin. C'est-à-dire, il n'y a pas la femme. C'est ni un deuxième sexe, ni la féminité, ni quelque chose de donné a priori. On ne peut pas parler de la femme a priori. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui permettrait de savoir d'emblée qu'on a affaire à une femme, par exemple. Hein. Et selon elle, il n'y a que des voies de réalisation du féminin et non pas du féminin comme tel. Donc, c'est différentialiste, mais différentialiste au sens d'une multiplication. C'est-à-dire qu'à l'extrême limite, et c'est ça vers quoi va tendre Judith Butler, il n'y a plus de sexe. Il y a une différentialisation multiple. Il y a autant de sexe qu'il y a de moyens de subjectivation. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une femme qui soit femme de la même manière qu'une autre femme, de même qu'il n'y a pas un homme qui soit homme de la même manière qu'un autre. Donc là, vous voyez que c'est une perspective complètement différente hein, de celle qui prône une universalisation. Et elle va donc, Lucie Rigaray, alors je ne rentre pas dans les détails extrêmes de tous les particularismes là, qui vont surgir de ce féminisme différentialiste, des gens comme Monique Wittig, par exemple, qui elle aussi émigre aux États-Unis, donc qui... Elle travaille la question plus de l'homosexualité féminine et qui donc pour laquelle enfin une lesbienne n'est pas une femme par exemple donc qui pousse dans un certain sens hein, la question de ce différentialisme là. Alors il y a eu plein de mouvements comme ça dont les derniers sont ceux qu'on appelle aux États-Unis les gender studies ou queer théorie. Alors, la théorie queer mettant particulièrement en avant ces questions-là, puisque c'est toute cette théorie qui travaille sur ces zones d'ambiguïté hein, entre, donc, disons, entre les multiples réalisations du sexe. Alors, donc, transsexualisme, transvestisme, toutes ces questions-là, même certains cas de fétichisme, etc. Tout ce qui conteste par les marges hein, la norme bifide, hein, c'est-à-dire homme et femme, continue par exemple à être reconnue par les féministes universalistes qui s'en sortent actuellement uniquement en désexualisant complètement. Hein, par opposition, les queer théories sexualisent à mort, hein, c'est-à-dire travaillent la question d'identité uniquement par le pôle de la créativité liées au sexe. Donc, c'est toute cette scène qui est beaucoup plus développée aux États-Unis qu'en France, qu'on pourrait appeler du mot français interlope, hein, c'est-à-dire donc toutes ces ambiguïtés, ces ombres hein, qui sont jetées par différentes pratiques homosexuelles, transsexuelles ou autres, hein, qui jettent un trouble hein, sur cette question de la différence sexuelle. Alors, c'est justement Gender Trouble, le grand livre de Judith Butler, qu'elle fait paraître en 90. Judith Butler, qui est vraiment une figure incontournable de ces Gender Studies. Elle a été très récemment traduite seulement en français. On trouve ses livres maintenant chez Léo Cher. Et Butler, donc, est d'abord, disons, une philosophe, mais elle travaille pas mal avec la psychanalyse. L'idée étant pour elle que, par exemple, il y a un livre là qui est sorti, je crois, il y a 3 ans chez Léo Cher, qui s'appelle « La vie psychique du pouvoir », où elle analyse, elle fait une analyse assez foucauldienne sur les rapports de pouvoir, mais sans du tout négliger ce qu'elle trouve que Foucault néglige, à savoir la dimension psychique, justement, de l'assujettissement. Donc, elle travaille toutes ces questions-là. Et alors, elle propose, donc... Elle propose un truc tout à fait clair et qui, du coup, a fait école immédiatement. C'est devenu une star absolue, Judith Butler. Donc, voilà, sa proposition, c'est le genre, ça n'est pas le sexe. Hein, donc, le genre ne se superpose pas au sexe anatomique. Hein, donc, le genre échappe à la différence bifide. Hein, et il n'y a pas d'identité de genre derrière les expressions du genre. Il n'y a pas d'identité. Pour elle, le genre, c'est une création d'un sujet à un moment donné, mais une création plastique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un genre à un moment donné et en changer. Et au fond, le genre, c'est ce qu'elle appelle une construction performative. Le genre, pour le genre, ce qui compte, c'est ce que vous faites plutôt que ce que vous êtes. Voilà pourquoi elle appelle ça performatif. C'est la performance, hein. C'est l'acte qui vous donne une position qui n'est pas une position par rapport au fait que vous êtes homme ou femme, hein, qui est une position par rapport à ce que c'est que d'être sexué, mais au sens où simplement ça ouvre, disons, la vie du désir. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui va, vers où vous allez aller, vers quoi vous allez être poussé pour construire quelque chose, disons, qui incarne à un moment donné votre désir. Hein, alors que, donc, effectivement, si vous vous en rappelez, la vie du désir, c'est-à-dire la possibilité d'investir un objet de désir, chez Freud, est absolument conditionnée donc, au complexe d'Œdipe qui définit donc, le parcours possible pour une petite fille, le parcours possible pour un petit garçon. Voilà. Donc, c'est cette espèce de... Bon, c'est assez deleuzien, hein, cette espèce de plasticité, de multiplicité, de nomadisme hein, qu'elle ouvre, qu'elle rend possible. Hein. Voilà la pointe, disons, avancée là, de ce féminisme différentialiste. Alors, je reviens maintenant sur mon problème, à savoir pourquoi la mésentente. J'avais besoin d'en passer par là parce qu'on se rend compte quand même d'une chose, c'est que le féminisme, c'est donc partagé entre deux voies, hein, soit donc, l'universalisme, soit le différentialisme, avec donc des apports nouveaux hein, voilà, au fil du temps dans chaque voie. Et la psychanalyse, précisément, alors, si on la sort du strict freudisme et qu'on la pousse jusqu'à Lacan, ce que je vais faire en 30 secondes, parce que je pense qu'effectivement, vous devez arriver au bout de vos possibilités. Calorifère ? Non ?
Alors, c'est intéressant. Attends.
Alors, bon, j'y vais, non, mais je suis ravie, au contraire. Donc, la psychanalyse, donc, ne choisit pas, ne peut pas choisir entre l'universalisme et le différentialisme. Voilà où est le point de mésentente fondamentale, c'est-à-dire que même chez Freud, alors ce sera beaucoup plus clair chez Lacan, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, mais même chez Freud, au fond, il y a un universel qui est le complexe d'Œdipe, mais c'est jamais à ça que la psychanalyse a affaire. C'est évidemment à la façon dont un sujet donné, un sujet particulier, une singularité, s'est emparé de ce problème, l'a transformé en symptôme, en névrose hystérique ou en névrose obsessionnelle, dans le cadre freudien, comment le sujet s'est subjectivé en fonction de cet universel. Hein, il n'y a pas d'universel sans singularité pour la psychanalyse, hein, parce qu'elle n'a jamais affaire, tout simplement, à un complexe d'Œdipe pur. Hein, alors que, effectivement, le féminisme a choisi. Hein, il y a une école universaliste et une école différentialiste. Voilà le point, disons, structural de la mésentente. Hein, précisément, le féministe s'est construit en choisissant entre une de ces deux voies, et la psychanalyse s'est construit en ne pouvant pas choisir entre ces deux voies, parce qu'elle construit d'un côté ses théories pour accéder à la clinique, mais la clinique, ça n'est que de la singularité, et au fond, la psychanalyse n'a affaire qu'à ça. Hein. Donc ça me semble être, voilà, ce que j'ai... j'appelle ma problématique du jour, hein, c'est-à-dire comment comprendre ces débats infinis et cette impossibilité de dialoguer. Hein. On ne peut quand même pas dire que, globalement, le dialogue a été très fécond entre la psychanalyse et le féminisme. Alors, encore moins fécond dans le sens de la psychanalyse que dans le sens du féminisme. C'est-à-dire la psychanalyse n'a à peu près rien intégré du féminisme. Pas même Irigaray, oui.
Depuis que je vous écoute parler, je me demandais si le problème n'était pas que finalement les grandes structures de la psychanalyse aient été posées uniquement par des hommes.
Oui, bah ça c'est sûr que.
Et moi je me demande parce qu'il y a quand même des psychanalystes.
Oui, alors voilà, je vais y revenir tout de suite. Vous avez raison. Oui, bien sûr, je vais y revenir tout de suite. Pour vous nous en montrer la complexité, parce que, alors, je sais plus trop où j'en étais, mais... Oui, non, donc voilà. On y va. Donc simplement, je m'arrête à votre question, effectivement, la mésentente. Je disais simplement que, je finis juste là-dessus, voilà, la psychanalyse n'a pas intégré les critiques du féminisme, les a rejetées, effectivement, à sa façon à elle, qui est très pénible, je vous l'accorde, elle est très pénible pour moi aussi, à savoir, ce que font les psychanalystes pour se débarrasser des critiques, c'est qu'ils analysent comme symptôme la position de celui qui critique. Donc évidemment, ça boucle le truc absolument et on ne peut plus rien faire. Hein. Si je vous dis, mais oui, vous êtes une hystérique phallique, c'est pour ça que vous revendiquez. C'est monstrueux. Je trouve que c'est un mode de fonctionnement qui est
castrateur.
Très tentant.
Très castrateur.
Très castrateur, très tentant.
Ici, on nous a bien montré comment la psychanalyse était très misogyne.
Qui vous a montré ça?
Non, avec le.
Régis Michel, ah bah oui, Régis Michel, c'est sûr qu'il a dû s'en donner à cœur joie, effectivement. Il y a une base pour ça, mais attendez, parce que je voudrais quand même vous amener 2-3 trucs de Lacan pour quand même tempérer un peu le truc, parce que tout n'est pas aussi atroce que ce que je viens de vous lire chez Freud.
Finalement, les autres personnes ont essayé de rétablir.
Voilà.
Ne comprenez pas d'ailleurs. Comment on pouvait dire que c'était une
caricature? Moi je vous aurais montré pourquoi, mais j'aurais aussi essayé de dépasser un peu le truc. Non, l'idée quand même, c'est que le féminisme s'est servi de la psychanalyse, ça c'est sûr, notamment le groupe Psychépo, qui est un groupe très important, qui a été très actif. Il y a eu pas mal de publications, il y avait une publication assez connue qui s'appelait Le torchon brûle. Entre autres, et donc effectivement, par un certain groupe de féministes, la psychanalyse a été accueillie, mais l'inverse n'est absolument pas vrai, et je pense qu'on peut le déplorer, ça c'est sûr. Alors pour ce qui est de la place des femmes psychanalystes par rapport à ces questions, j'en ai juste dit un petit mot tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement effectivement de femmes qui commence donc avec les pionnières, disons, en tant que psychanalyste, alors Lou Andrea Salomé, Hélène Deutsch, surtout Mélanie Klein. Et on en voit encore, par exemple, les suites chez des gens comme, chez des Américaines comme Catherine McKinnon, qui est donc une sociologue américaine, mais qui est aussi psychanalyste, et qui donc, comme d'ailleurs Karen Horney, hein, qui a émigré aux États-Unis et qui a fondé une école importante aux États-Unis, donc toutes ces femmes s'intéressent exclusivement à une chose, qu'elles appellent les relations d'objet, hein, et donc, c'est-à-dire ce que donc, je nommais tout à l'heure le pré-œdipien, c'est-à-dire ce qui se joue dans le rapport à la mère, essentiellement. Donc c'est le grand apport à la psychanalyse de Mélanie Klein, c'est-à-dire tout ce qui, dès le départ de la vie, structure la vie du nourrisson, hein, dans le rapport donc, à la mère ou à la figure maternelle, enfin à celui d'ailleurs qui prend soin de l'enfant, quelque chose qui n'est pas du tout sur le mode œdipien, c'est-à-dire une espèce de structure assez incontournable. C'est pas ça qui les intéresse. C'est, disons, les aléas de la construction de la relation d'objet, mais alors avec un truc assez compliqué, c'est-à-dire, alors elles se sont intéressées, par exemple Catherine McKinnon s'est intéressée à la reproduction de la féminité dans le rapport mère-fille, c'est-à-dire la façon dont les mères élèvent les filles et la façon dont elles reproduisent avec leurs filles l'espèce de stigmatisation du féminin dont elles-mêmes ont été victimes. Donc tout ce courant-là, disons, effectivement, a produit un certain genre de féminisme, mais je trouve assez réducteur par rapport aux problèmes généraux du féminisme, notamment aux problèmes politiques, c'est-à-dire en considérant la femme uniquement comme mère. Alors ça pose vraiment d'énormes problèmes, c'est-à-dire en réalité, elle se donne un accès à la femme par le biais de l'enfant, donc en n'ayant accès qu'à la mère, quoi. Alors, c'est relativement tombé en désuétude, il faut bien le dire. Et à ma connaissance, Catherine MacKinnon, elle écrit dans les années 70, mais tout ça a été balayé complètement par les questions actuelles du genre, et des queer théories, etc., qui concernent très peu les psychanalystes, sauf un psychanalyste qui s'appelle Jean Alouche et son école, qui s'appelle l'école lacanienne de psychanalyse, qui ont beaucoup fait pour, d'ailleurs ils sont à l'origine des premières traductions de Judith Butler, pour connecter la psychanalyse avec des problèmes contemporains auxquels en général elle reste assez sourde, en passant par Foucault, par Deleuze, mais aussi en travaillant beaucoup le transsexualisme, en rencontrant par exemple des associations transsexuelles. Enfin, ils ont beaucoup, Alouche, qui ne manque pas d'humour, a fait tout un colloque il y a quelque temps qui s'appelait Queer Anna. Donc c'était sur Anna Freud, la fille de Freud, donc il a queerisé en montrant, en déconstruisant toute sa théorie qui est ultra normative et adaptative, et donc en la repensant à partir du prisme assez particulier du fait qu'elle a été analysée par son père et que ça posait des tas de problèmes, et donc il déconstruit tout ça de l'intérieur de la psychanalyse en montrant justement que c'est sa théorie normative et adaptative de la psychanalyse est plutôt une défense contre tout ce qui du sexuel inconscient vient être, disons, le ferment de la subversion en psychanalyse, c'est-à-dire par le bout duquel on peut saisir quelque chose de l'originalité des modes de subjectivation, par exemple. Comment quelqu'un fait avec la question qui est posée à chacun du sexe, qu'est-ce que je fais avec mon sexe? Alors effectivement, avec mon sexe au sens, avec ma sexualité, pas avec mon sexe anatomique, qu'est-ce que je fais de mon désir, etc. Alors ces questions-là précisément sont abordées par Lacan. C'est pas par hasard si Alouche donc est lacanien, et si c'est lui, donc un lacanien, qui, en France, en psychanalyse, essaye de faire un peu bouger l'orthodoxie très forte des psychanalystes, leur conservatisme majoritaire, leur opposition à tout ce qui est PACS, homoparentalité, etc. Bon, il y a des figures isolées, quand même, heureusement, qui mettent un peu d'air là-dedans, comme Michel Thor, par exemple, et quelques autres, mais enfin, ils sont très minoritaires. Et donc, Alouche, effectivement, est tributaire des concepts de Lacan. Alors, parce que Lacan amène effectivement quelque chose de fondamentalement différent de Freud, c'est-à-dire qu'il ne pense plus la différence sexuelle en fonction du complexe d'Oedipe. En réalité, il ne pense pas la différence sexuelle, il pense la différence dans la sexuation, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, Freud pense quand même sur le terreau, disons, de l'anatomie. La différence sexuelle, elle existe anatomiquement, quels effets ça produit psychiquement? Voilà la question de Freud. La question de Lacan, c'est, au fond, on peut pas nier, dans l'état actuel des choses en tout cas, qu'il y a des hommes et des femmes, mais c'est pas ça qui est intéressant dans, les défilés dans lesquels un sujet s'engage pour construire sa position de sujet. Il a affaire avec la question de la sexualité pour construire sa position de sujet, mais comment est-ce qu'il y a affaire? Alors, en passant par ce concept de jouissance, qui est un concept compliqué chez Lacan, il arrive à penser les modes, les modalités de la sexuation et non plus donc la différence des sexes, c'est-à-dire qu'il arrive à penser, certes, encore dans le cadre des hommes et des femmes, mais en montrant comment ça circule, en montrant à partir de ce concept de jouissance, comment on peut être femme et échapper, à quelque chose de la norme phallique qui était posée par Freud comme incontournable, et comment, comme homme, on peut y échapper aussi bien. Alors, il prend des exemples très particuliers qui sont les mystiques, hein, qui, au fond, développe, disons, un rapport à la sexualité sans sexe, hein, mais à des formes d'extase, et donc de ce qu'il appelle jouissance. La jouissance, ce serait justement ce qui échappe à la fois à la norme, c'est-à-dire au symbolique, hein, à l'imaginaire de l'autre, c'est-à-dire à tout ce que le sujet projette sur, disons, la norme sociale pour l'habiter, hein, c'est-à-dire pour y mettre un peu de lui, pour pouvoir s'y reconnaître, hein, donc toutes ces images, ces représentations avec lesquelles il donne forme, hein, à la norme, et avec lesquelles il vit, disons, avec la norme, il cohabite avec la norme, la jouissance, ce serait pour Lacan du côté de ce qu'il appelle le réel, avec un grand R, c'est-à-dire ce qui échappe, hein, à la fois au symbolique et à l'imaginaire, à la fois à la norme et aux représentations, ce qui ne se dit pas, hein, et qui donc travaille le sujet. Alors, il montre très bien dans certains textes, Lacan, que ce concept de jouissance, il le pense à partir de ce que Freud laisse impenser lui-même, c'est-à-dire la pulsion de mort en particulier, chose que Freud a rencontrée au moment où il voyait que ses cures n'en finissaient plus, qu'on n'arrivait pas à endiguer la répétition. Qu'il y avait des trucs qui, effectivement, faisaient obstacle, hein, complètement à, donc, disons, la résolution de la cure, et qui maintenaient le sujet dans des modes, alors que Freud n'appelle pas de jouissance, mais il n'est pas loin de le dire, hein, notamment, par exemple, avec l'homme aura, dont il se rend compte. Alors, l'homme aura, c'est la découverte par Freud de la jouissance, et il utilise le terme jouissance, d'ailleurs, très rapidement. Hein, Freud, donc, l'homme aura, je ne vous fais pas tout, c'est un des grands cas de psychanalyse de Freud. Il raconte à Freud, il est là, c'est sa deuxième séance, il est sur le divan, Freud est derrière, et il lui raconte un truc qui l'a totalement traumatisé, une anecdote pendant qu'il faisait son service militaire, qui lui avait été racontée par un capitaine, qui est donc une torture, en fait, c'est l'histoire d'une torture qu'on appliquait à des militaires récalcitrants ou je ne sais trop quoi, qui consistait donc à agenouiller quelqu'un, à mettre un rat dans une sorte de pot, à coller le pot sur les fesses du soldat ou je sais pas quoi, et donc à le laisser le temps que le rat rentre dans l'anus, donc, et le rat affolé, etc., cherche la sortie, trouve cette sortie, et donc pénètre dans l'anus du malheureux soldat torturé. Et donc l'homme aura raconte cette histoire atroce à Freud. Et peut même pas tenir allongé, là, il est sur le divan, il est obligé de se lever, il arpente la pièce, alors Freud le regarde totalement sidéré, et il regarde le visage de cet homme qui lui raconte ce truc atroce, traumatisant, dont il rêve, etc. Et il voit sur le visage un plaisir à raconter ses horreurs. Et donc, Freud se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En réalité, donc, il se rend compte que... dans cette espèce d'histoire horrible, il y a de la jouissance pour le sujet qui utilise inconsciemment le dispositif de la cure où Freud est derrière et donc échappe au contrôle du patient, et donc le patient se lève parce qu'il supporte pas d'avoir Freud derrière dans la position quand même de celui qui serait le capitaine cruel si le patient était celui qui était torturé, enfin bref, donc ça rentre dans le défilé comme ça névrotique du patient, et Freud se rend compte qu'il peut y avoir un plaisir à faire état d'un symptôme, d'un trauma, de quelque chose dans la cure, qui est censé être la souffrance dont le sujet veut être délivré. Donc, paradoxe absolu. Voilà ce truc-là de la jouissance, c'est-à-dire que, il y a, du plaisir à souffrir. Il y a quelque chose qui tient le sujet à sa souffrance et qui fait qu'il résiste, hein, à toutes les avancées du traitement pour maintenir ce plaisir paradoxal qui est celui même du symptôme pour lequel il est venu dans la cure. Donc par rapport à ces questions-là, Lacan les reprend un peu différemment, donc en montrant que justement la jouissance, c'est ce qui agit dans le sujet à son insu même. C'est très proche, hein, au fond, il est très proche de rapprocher la jouissance de l'inconscient lui-même, hein, c'est-à-dire ce qui fait qu'un sujet fait ce qu'il fait sans savoir pourquoi il le fait, mais qu'il le fait quand même. Donc, cette contrainte interne, là, dont il dit dans ce séminaire-là, qui est un séminaire petit, mais dense, encore, donc... il dit que la pire injonction du surmoi, c'est-à-dire de cette loi interne, c'est jouir. Voilà. Hein, et c'est à l'époque, enfin il, là c'est un peu après son fameux article Kant avec Sade, hein, où il montre justement que l'impératif catégorique kantien, hein, effectivement c'est Sade qui en donne la logique même, hein, c'est-à-dire tu agiras contre toi-même pour persévérer dans ce qui fait que tu es ce que tu es, que tu ne sais pas ce que c'est, mais que malgré tout, voilà, tu répètes encore et encore les mêmes symptômes, les mêmes situations, tu ne peux pas en sortir, etc. Donc, au fond, c'est par rapport à ça, à cette question de la jouissance, que Lacan pense la question de la sexualisation, moyennant quoi, alors, bon, je ne vais pas me lancer maintenant dans ce joli petit tableau-là, donc, qui est ce qu'il appelle les formules de la sexualisation, où on voit simplement une chose, et c'est quand même pas rien, parce que par rapport à l'infériorisation, disons, du féminin chez Freud, il y a une véritable réhabilitation du féminin, c'est-à-dire que ce qu'il montre au fond, c'est que l'homme ne rencontre jamais la femme, mais rencontre toujours le fantasme qu'il a de la femme, et, hein, c'est la seule chose à quoi il a accès dans son désir, et effectivement, alors je vais pas rentrer dans les explications causales de ce truc-là, parce que ça me prendrait très longtemps, mais donc voilà, l'homme ne rencontre pas la femme, mais son propre fantasme, incarné dans une femme. Et de l'autre côté, certes, la femme n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus chez Lacan une essence comme ça de la femme, mais par contre, elle, certes, elle est un peu prise dans ce qu'il appelle la jouissance phallique, c'est-à-dire...